Doch heine bam romim ham tseim noch un khono al kenfe hashchino bim alos kedoshim ut horim ke zohar horkia מירים ומזהירים לנשמוס שש מיליוני אחינו ואחיוסינו בישראל שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנדמאו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, סוביבור, בלזק, חלמנו, שטרוטוב.
Dimanche 17 juillet 2020 s'est tenue une cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv dans le cadre de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. En introduction des discours, Pierre Asse, délégué régional du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, nous parle de cette nuit-là, du 16 au 17 juillet, il y a 78 ans.
Entre le 16 et le 17 juillet 1942, plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtées. Une grande partie sera détenue au vélodrome d'hiver dans des conditions d'hygiène déplorables et presque sans eau ni nourriture pendant 5 jours. Ils sont ensuite envoyés par les trains de la mort vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Moins d'une centaine d'adultes et aucun enfant reviendront. C'est le dimanche qui suit la date anniversaire de cette terrible rafle dite du Veldiv qui a été retenue par la proposition de loi du 29 février 2000 comme journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Car l'extermination juive était la première étape d'un processus de haine raciale que devait suivre l'extermination d'autres races considérées aussi comme inférieures, comme le peuple rom, l'asservissement des Slaves, l'éradication de l'homosexualité ou des handicapés mentaux.
À cela de faire un parallèle avec aujourd'hui et les crimes antisémites qui n'ont jamais cessé.
75 ans après, on aurait pu espérer que l'on retienne les leçons de l'histoire. Mais hélas, force est de constater que cette période passée résonne encore et toujours dans notre actualité. D'abord par l'antisémitisme et le racisme toujours présents. Ainsi, les théories suprémacistes, révisionnistes, racistes et antisémites prospèrent à nouveau, y compris dans notre région, comme on a pu le voir à travers les tags antisémites et anti-migrants, ainsi que les profanations de nos cimetières. Et malheureusement, en France, on tue à nouveau des Français parce que juifs. Soit en raison du préjugé que les juifs ont de l'argent. Ce sera le cas pour Ilan Halimi en janvier 2006 par le gang des barbares. Ou Mireille Knoll, en mars 2018, sauvée de la rafle et dont la justice vient de reconnaître le caractère antisémite de l'assassinat. Soit on tue des juifs par l'importation des conflits moyen-orientaux. Ce terrible 19 mars 2012 à Toulouse, où Gabriel, 3 ans, Arié, 6 ans, et leur père Jonathan Sandler sont abattus devant leur école par Mohamed Merah, qui assassine un des enfants rampant par terre vers son frère. Puis il attrape par les cheveux la petite Myriam Mansonego, 8 ans, pour l'exécuter d'une balle dans la tête à bout portant. Il déclarera le faire au nom des enfants palestiniens. Il est vrai que la petite Myriam a dû faire souffrir beaucoup d'enfants palestiniens. Le 8 janvier 2015, Hamedi Koulibaly tue 4 juifs clients de l'hypercachère au nom de l'État islamique dans la suite de l'attaque de Charlie Hebdo. Le procès de ses complices va s'ouvrir et sera filmé, à l'instar de ce qui a été fait pour celui de Klaus Barbie, à titre pédagogique. L'État islamique va inspirer de nombreux attentats sanglants anti-français, comme au Bataclan et à Nice. Celui qui tue des juifs ou des mécréants, au nom d'une foi dévoyée, procède de la même démarche perverse que les nazis qui ont dévoyé la science pour développer leur théorie raciale. Le juif et Israël sont désignés comme les responsables de tous les malheurs du monde, coupable par nature de tous les dérèglements de la planète et des frustrations de l'humanité. Le dernier exemple étant la pandémie du coronavirus, désignée comme une machination juive, en reprenant les poncifs antisémites du Moyen-Âge de l'empoisonneur juif de Puy durant la peste, qui allait servir de prétexte au massacre de la communauté juive de Strasbourg le 14 février 1349. C'est pourquoi il était légitime d'instituer également cette journée comme un hommage reconnaissant de la France et des Juifs à ces justes qui refusèrent de vivre à genoux dans la lâcheté et le déshonneur et qui eurent l'audace incroyable de protéger, d'aider, de cacher, de soutenir et de sauver ces innocents traqués.
C'est Jean-Louis Bicard, membre du CRIF, qui a lu le nom des Justes d'Alsace.
Charles-Émile Althoffer de Wörth, pasteur, député, directeur des services des réfugiés d'Alsace-Lorraine. Eugène Balthazar, directeur du centre d'accueil de secours national à Amnaz. Robert Benger de Sels, vicaire de la paroisse de Niederbronn-les-Bains. Auguste Louis Bibert et son épouse Jeanne Bibert, originaire de Macquillère. Pierre Beaucaire de Saint-Amand, séminariste à Lyon, puis aumônier de la brigade indépendante Alsace-Lorraine. Eugène Burget de Mulhouse, convoyeur bénévole de la Croix-Rouge. Paul Dusselin, directeur d'entreprise. Nicolas Dupont, gendarme à Gamsheim et résistant. Camille Ernst de Célestat, conseiller de préfecture dans l'Hérault, puis à Marseille. Louis Felter, agent de police aux forces d'Édincourt. Henri Folly de Münster, responsable des services d'assistance aux réfugiés en Haute-Savoie. Paul Gruffa de Benfeld, gendarme à Thonon-les-Bains. Émile Gerst-Wigarter de Burst et réceptionniste au centre médico-social à Marseille. Urbain Haag de Strasbourg, policier entré dans la police d'État de Strasbourg. Honoré Hassler de Saint-Louis, gendarme. Adélaïde Rautwald du Haut-Wald. Victor Colmer de Schirheim, prêtre fondateur de l'œuvre Don Bosco en Alsace. André Martin de Blotzheim, gendarme et résistant. Paul Matéry, secrétaire de mairie, mort en déportation à Mauthausen. Eugénie Métenet du Haut-Wald. Elisabeth et Eugène Münch de Strasbourg, directeur d'une maison d'enfance. Louis Osterberg de Münster. Albert Fleger de Blotzheim. Hélène Schwartz-Rosenberg de Strasbourg. Auguste et Suzanne Steinmetz de Strasbourg, Joseph Storck, proviseur du lycée à Limoges, Aloïs Steinberg, officier de police à Périgueux, André Trabant et sa femme, Elisabeth, Albert Trimesch, né à Metz, Raymond Weiss de Gundershofen et Maga Tser.
Le grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Wald, lui aussi, a rappelé l'héroïsme dont ont fait preuve les justes.
Mesdames et messieurs les élus, permettez-moi de m'associer aux salutations prononcées par Pierre Haas. Je suis très ému à l'évocation des noms qui vient d'être faite par notre ami Pierre-Louis Bicard. Comme l'a rappelé il y a quelques instants Pierre Haas, effectivement, il est de notre devoir de ne pas oublier cette dimension de la cérémonie que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire bien sûr à la fois rappeler les événements extrêmement tragiques qui sont au cœur de cette cérémonie, mais également eh bien, ce côté extrêmement positif et dont nous pouvons être fiers, cette allée des justes sous laquelle nous sommes réunis aujourd'hui et qui montre à quel point eh bien, la France a également compté parmi elles des personnes prêtes, comme tu l'as dit Pierre tout à l'heure, prêtes à se sacrifier, prêtes en tout cas à mettre leur vie, la vie de leur famille en danger afin de sauver d'autres personnes.
La professeure de lettres Aline Verlet du collège André Mauroy de Bichevillers est venue avec 3 élèves qui ont précédemment travaillé pour le concours de la résistance et de la déportation et qui ont lu des correspondances de personnes déportées.
Paris, le 18 juillet 1942. Cher oncle, tante et cousine, 2 mots pour vous dire que nous avons été pris jeudi à 3h30 et on nous a conduits au vélodrome d'hiver. Nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre. Je ne sais si on pourra supporter encore longtemps ceci. Maman n'en peut plus. C'est encore plus ahurissant que toutes les femmes racontent des choses qui ne tiennent pas debout et au lieu de se remonter, elles se descendent. Et celles qui ont un peu de courage, elles le perdent petit à petit. Je ne peux pas en écrire plus long. et nous espérons vous revoir bientôt. Jeannot pleure tout le temps parce qu'il veut retourner à la maison. Clara.
Leur professeur nous parle de la motivation de ses élèves.
Et les élèves sont très motivés. Venir en plein été, hors temps scolaire, je trouve que c'est déjà très très beau. Et c'est vrai que c'est une grande, grande motivation. Et c'est également un de mes objectifs fondamentaux. Alors en fait, j'ai travaillé avec une classe de 3e sur le concours national de la résistance et de la déportation. Nous avons travaillé toute l'année. Nous avons produit un film, nous avons écrit des textes, nous avons joué du violon. C'était véritablement donc, un devoir de mémoire. Et pour nous, c'est fondamental, car faire revivre ces voix étouffées du Veldiv, c'est un devoir fondamental.
Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg, nous parle de l'importance de cet hommage et du travail de mémoire.
Un devoir, bien sûr, de mémoire aux justes, de mémoire aux victimes de cet événement tragique. Mais c'est également un devoir pour l'avenir. J'ai trouvé très émouvant les discours et le travail réalisé par les élèves, par leurs professeurs, pour marquer ce devoir de mémoire, mais aussi pour s'inscrire dans une continuité de respect, de paix, et pour dire non, nous n'oublierons pas et cela ne doit plus arriver. Moi, je m'inscris dans une volonté de dialogue, effectivement, et d'échange, et je crois que ce sera quelque chose à construire avec l'ensemble des communautés religieuses, avec les membres aussi de l'éducation nationale et tous les acteurs qui souhaiteront participer à ce partage et à ces échanges à l'avenir.
Et on termine avec le son de l'aumônier militaire Jonathan Blum avec sa prière El Mal Hamarin.
Uma seruna shom al ale kidush hashem bavur she'anu mispalelim le'iluya nishmosom Lochein bal harachamim yasirem beseiser knofov leolamim mitzror mitzror achayim es nishmosom began eden began Shalom al mishkafot.